Alléluia. Vous êtes en forme? Ouais. Jésus aussi, j'ai encore parlé tout à l'heure, là, il a l'air de tenir la forme. Eh ben, je suis content d'être là, et je vais juste vous dire, je ne viens pas complètement comme un étranger. La dernière fois que je suis venu dans le coin, ça remonte à 27-28 ans à peu près. Avant, régulièrement, je venais dans le coin, j'ai fait pas mal de matchs de boxe à Fécamp, à Rouen, au Havre. Et puis j'ai fait pas mal de bêtises aussi dans le coin, mais bon, ça on en parlera peut-être un peu ce soir. Parce que là, je vais pas trop me présenter, ça je le réserve plutôt pour ce soir. Là, je veux aller directement dans le vif du sujet, ça vous va? Et il y a aussi une chose, ça a été très difficile de venir, hein. Hier on a fusillé une injection en plein milieu de la route, là, ça a été... Donc là, on est venu, là, d'un petit suppositoire à camion, à 5. on vient juste de débarquer. Mais en tout cas, je veux juste vous dire un merci pour ceux qui ont préparé la chambre, là, ça fait plaisir, hein, un accueil comme ça, c'est super. En tout cas, je veux directement rentrer dans le vif du sujet, parce que vous allez vite vous apercevoir que je suis un peu fou. Mais en tout cas, je sais de qui je suis fou de Jésus. Et j'espère qu'on est entre fous. Et j'ai bien aimé tout à l'heure là quand t'as parlé de Delirious, parce que justement j'y pensais aussi en venant. J'ai pas écouté, mais j'y pensais aussi. Et puis cette fameuse chanson là, History Maker, des faiseurs d'histoire, ceux qui font l'histoire. En fait, moi je veux pas être un spécialiste des réveils, je veux pas être un spécialiste de l'histoire de l'Église. Vous savez quoi? J'ai envie que Dieu puisse écrire des pages de l'histoire au travers de ce qu'il va faire dans ma vie. Amen. Vous aussi? Mais en tout cas, j'ai remarqué une chose. C'est que pour marquer l'histoire, on a besoin d'être marqué par Dieu. Et la chair est faible. C'est terrible. Et vous savez que ça m'arrive régulièrement, ça. C'est terrible. Je sais même plus où j'en étais. Bon, c'est même plus la peine que je cherche, de toute façon. Non, mais c'est bon, pour laisser. Ça va aller. J'en ai à peine besoin, en fait. Et en fait, si on veut marquer l'histoire, on a besoin d'être marqué par Dieu. Et c'est même pas... faut même pas qu'on s'imagine que c'est au travers d'un petit rituel, au travers d'une petite religion, qu'on va changer notre société. Est-ce que vous êtes d'accord? On a besoin d'être marqué par Dieu. Et pour être marqué par Dieu, eh ben, on a besoin de le rencontrer. Et puis moi, cet après-midi, je veux parler d'intimité avec Dieu. Je veux parler de le rencontrer. Je veux parler d'être marqué par lui. Parce que vous savez, les gens qui nous entourent, c'est pas de blabla religieux qu'ils ont besoin. Ce qu'ils ont besoin, c'est de voir Jésus incarné dans nos vies. Amen. Et ce qu'ils ont besoin, c'est de voir le royaume de Dieu avec les signes qui l'accompagnent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et les gens qui sont autour, c'est pas de blabla, c'est pas de longues prédications qu'ils ont besoin. Ce qu'ils ont besoin de voir, c'est voir que réellement toi, tu as été sauvé. Que réellement Christ vit en toi. Et moi, je veux parler d'une rencontre avec Dieu cet après-midi. Parce que c'est vraiment ce que j'ai sur mon cœur. Et puis ça, quand je leur ai prêché, ce soir, on pourra passer à autre chose. Mais je suis venu pour le premier message. Amen. Le reste, ça sera du bonus. Mais je veux vider le chargeur tout de suite, quoi. Et vous avez déjà entendu parler de l'histoire de Jacob? Jacob qui était au Jabok. Ben, je l'avais écrit quelque part dans les notes, mais je sais plus où c'est. En tout cas, c'est dans Genèse. Et il y a un moment, vous connaissez l'histoire de Jacob? Hein, Jacob, il était jumeau, il avait un frère, Ésaü le poilu. Et Ésaü est né avant et Jacob lui a tenu le talon. Puis en fait, Ésaü était le fils à son père, il aimait les jeux virils, il allait à la chasse, il était poilu, il sentait la sueur, c'est ce que la Bible nous dit, hein, il sentait fort. Et puis Jacob, lui, c'était le fils à maman en fait. Hein, il aimait bien la cuisine, il aimait bien rester dans la tente. Et une fois, avec la complicité de sa mère, il a piqué la bénédiction de son frère. Vous en rappelez, pour un plat de lentilles. Et il lui a dit, si tu, tu m'échanges ton droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Le frère dit, ouais, qu'est-ce que j'en ai à faire? File-moi tes lentilles, j'ai faim. Et en fait, ça s'est matérialisé quelques temps plus tard. Il s'est fait passer pour son frère et son père devait le bénir. Et il s'est déguisé, il s'est mis du poil, parce que son père était aveugle, donc il pouvait pas bien voir, mais par contre il pouvait toucher, il pouvait sentir. Il s'était mis du poil de chèvre sur les mains pour faire croire qu'il était poilu. Il avait mis les vêtements à son frère pour que son père puisse sentir la sueur, l'odeur virile. Il a dit, ah, ça c'est vraiment, ouais, c'est vraiment Ésaü, je vais pouvoir le bénir. Et en fait, il lui a piqué la bénédiction. Et après, il a dû fuir. Et puis un jour, eh ben, il a dû revenir, quoi. Et puis pendant qu'il revenait, il s'est arrêté à un endroit qui s'appelle le Jabbok. Et là, il était tout seul. Et la Bible nous dit qu'il a lutté toute la nuit contre un ange. Est-ce que vous l'avez déjà lu, ça? Ouais. Et il a lutté toute la nuit. Et puis il y a eu un moment où il s'est fait démettre la hanche. Et puis après, l'ange lui a dit, laisse-moi partir. Et Jacob lui dit, non, je te laisserai partir que quand tu m'auras béni. Et on voit après, la Bible nous dit que c'est Jacob qui a gagné le combat. Et puis vous savez quoi? J'ai un passé où il y a eu pas mal de violence. J'ai fait beaucoup de sports de combat et beaucoup de combats dans la rue. Et vous savez quoi? Une bagarre, il n'y a que dans les films de cow-boy que ça dure plusieurs minutes, quoi. Mais en vrai, un combat, un face-à-face, quand ça dépasse la minute, c'est facile quand on est sur un ring et puis qu'il y a des règles et puis qu'il y a un arbitre. Ça peut durer plusieurs rounds de quelques minutes. Mais quand c'est dans la rue, franchement, quand ça dépasse les 3-4 minutes, c'est déjà une grande bagarre. Hein, c'est, faut pas s'imaginer que on peut s'envoyer des pêches dans la tête comme ça et puis on y va, puis ça fait comme dans les films de cow-boys et puis on se relève, puis on n'a même pas de marque. Non, c'est pas comme ça dans la vie réelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et là, on voit Jacob qui se bat contre quelqu'un et ça dure toute la nuit. Moi, une fois, j'ai lu la Bible, mais comme un bagarreur, quoi. Et j'ai dit, waouh, ça paraît incroyable, quoi. Ça veut dire que les deux combattants, ils sont pratiquement de la même force. Et d'un seul coup, l'ange, il déboîte la hanche de Jacob. Moi, j'ai appris à déboîter une hanche en boxe thaï et je l'ai déjà fait. Et en fait, quand quelqu'un a la hanche déboîtée, il tient plus debout. Sur le coup, il peut plus tenir debout. Il peut même pas supporter son poids. C'est terrible, la douleur. Alors, comment deux personnes qui ont une force égale, d'un seul coup, il y en a un qui se retrouve avec une hanche déboîtée et résultat du match, c'est celui qui a la hanche déboîtée qui gagne. Vous trouvez pas ça bizarre? Alors, je vais vous mimer la scène. Tiens, viens, tu vas faire un bon rôle, toi. Donc, lui, c'est l'ange. Alors, maintenant, allez pas sortir dehors en disant, ouais, on a vu un ange. Non, non, attends, il joue un rôle. Moi, je suis Jacob. Et puis, on va se battre. Non, on mime aussi, hein. On va mimer. Et puis, bon, on y va, on se bat. Et puis, d'un seul coup, tu mets un coup ici. D'accord? Mais pour de faux. Hein? Allez, vas-y, on se bat, et d'un seul coup, tu mets un coup ici. Vas-y, mets avec ton genou, là. Ouais. Peut-être tu me fais un truc comme ça, là. Voilà. Voilà. En principe, moi, j'ai pris le coup ici. En principe, je dois m'écrouler. Et je peux pas faire autre chose. Quand la hanche, elle est déboîtée. En plus, Jacob, il a boité jusqu'à la fin de sa vie, hein. Pendant plusieurs dizaines d'années après le coup. C'est un coup qui est terrible, ça. En principe, je tiens plus sur mes jambes et je suis censé m'écrouler. Est-ce que vous êtes d'accord? Comment quelqu'un par terre, il peut encore gagner? Vous trouvez pas ça bizarre? C'est impossible. Eh bien, vous savez quoi? À force de méditer ce texte, j'ai trouvé la solution. Recommence, mais doucement. Hein. On se bat et là, tu me mets le coup. Moi, je suis censé m'écrouler. Et avant de m'écrouler... C'est pour ça que je l'ai pris costaud. Je voulais être sûr qu'il me supporte. Et là, lui, il me dit, laisse-moi partir.
Vas-y. Laisse-moi partir.
Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Et puis là, je reste accroché. Et c'est comme ça que Jacob il a gagné. C'est bon, je peux retourner à ta place. Est-ce que vous avez saisi? C'est le seul moyen. En fait, l'ange disait, le jour se lève, laisse-moi partir. Jacob il lui dit, je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas partir. Et moi, je veux juste vous parler, peut-être ici, il y a des fanats de combat spirituel, on aime bien lutter contre les démons, contre le diable. Moi, c'est pas trop mon trip. Le combat spirituel, il existe, ça c'est clair. La Bible dit aussi qu'on est censé être plus que vainqueur. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais par contre, la Bible, là, elle nous présente un combat. C'est un combat contre nous-mêmes et presque un combat contre Dieu. La Bible nous dit que Jacob a lutté contre Dieu et il a été vainqueur. Ça paraît bizarre, combattre contre Dieu. Et en fait, c'est à cause de sa détermination à être béni. Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Et puis, vous savez quoi? C'est le seul moyen d'être marqué par Dieu. C'est avoir cette ténacité où on va dire « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas aller. Je suis déterminé. Je te casserai les pieds, même jusque dans l'éternité. Mais je ne te laisserai pas avant que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas avant d'être marqué par toi. Je ne te laisserai pas. » Et puis vous savez quoi? D'un seul coup, l'ange a dit « Bon, bah, j'ai compris, tu as la tête dure. Comment tu t'appelles, toi ?» Moi, c'est Jacob. Eh bien, ton nom ne sera plus Jacob. Parce que Jacob, ça voulait dire le supplanteur, l'arnaqueur. C'est, tu ne t'appelleras plus l'arnaqueur, tu t'appelleras Israël. C'est, Israël, ça a deux sens possibles. C'est soit celui qui a lutté contre Dieu, ou soit le prince de Dieu. Il dit, tu ne vas plus t'appeler l'arnaqueur. Maintenant, tu vas t'appeler le lutteur de Dieu. Tu vas t'appeler le prince de Dieu. Puis tu sais quoi? Depuis ce jour-là, eh bien, Jacob, il a complètement changé. C'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à marcher avec Dieu. C'est seulement à partir de ce moment-là. Et puis tu sais quoi? La Bible dit qu'il a boité jusqu'à la fin de sa vie. Ça veut dire que son entrevue avec Dieu, ça a affecté sa marche à vie. Il ne pouvait plus marcher de la même manière. Et moi, je veux juste te dire une chose. Le jour où tu rencontres Dieu pour de vrai, je ne te parle pas le jour où tu rencontres l'Église. Je ne te parle pas le jour où tu rencontres une croyance. Je ne te parle pas le jour où tu rencontres le christianisme. Non, non. Je te parle le jour où tu rencontres Dieu en face à face. Je ne parle même pas du jour de la conversion, quand on a répondu à un appel. Non, non. Je parle du jour où tu luttes seul à seul avec Dieu jusqu'à. Eh bien, à partir de ce jour-là, c'est presque ton identité qui change. Il y a quelque chose de profond en toi qui va changer et qui va changer aussi ta façon de fonctionner, qui va changer ta façon de marcher. Jacob, depuis ce jour-là, c'était plus l'arnaqueur. Avant, il avait triché pour être béni. Là, il a lutté pour être béni. Et cette bénédiction-là, elle a eu du fruit jusqu'à la fin de sa vie. Ring-a-ding ! Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire ? C'est... Moi, je suis venu vous parler d'un Dieu qui désire une rencontre avec vous. Il est, je vais peut-être vous choquer, mais bon, j'aime bien en même temps, hein. J'aime pas tourner autour du pot, quoi. C'est pas vos louanges qu'il attend. Parce qu'on peut le louer pendant une demi-heure, et puis la demi-heure passer à autre chose. Est-ce que vous êtes d'accord? On peut le louer une demi-heure par semaine, le temps de la réunion, allez, une heure pour les églises vraiment charismatiques, hyperactives. Et puis, le reste du temps, on va vivre comme s'il n'existait pas. Est-ce que vous saisissez? C'est même pas nos cultes qu'il attend. C'est même pas nos réunions. C'est même pas notre petite prière avant le repas ou toutes ces petites choses-là qui peuvent marquer une vie chrétienne. Non, non. Ce qu'il attend, c'est un face-à-face. Ce qu'il attend, c'est nos cœurs. Je vous rappelle que Jésus l'a dit que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Vous avez déjà réfléchi à ce qu'était un adorateur? Moi, vous savez que pendant longtemps, je me suis trompé sur la définition d'un adorateur. Moi, je pensais que l'adoration, c'était quand la louange est devenue plus cool. Et puis qu'arrivait le temps des slows. Tu dansais un slow avec Jésus, presque. Tu vois, j'avais l'impression que c'était ça, l'adoration. C'est quand les paroles sont un peu plus profondes, et puis que le rythme, il est un peu plus doux, et puis qu'on peut chanter les yeux fermés, et puis prendre la posture charismatique. Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire? Eh bien, dans la Bible, c'est pas ça, l'adoration. Ça en fait... Ça peut en faire partie, mais fondamentalement, ce n'est pas ça l'adoration. Vous savez, il y a une règle dans la Bible pour l'étudier. Si vous voulez étudier un thème, cherchez dans la Bible la première fois où le thème il est mentionné. Par exemple, vous voulez faire une étude sur le mariage, vous allez directement à Genèse 3. Et puis là, vous allez, et la première fois qu'un thème est mentionné dans la Bible, vous avez déjà tout le squelette de votre étude. La Bible, elle a été faite de manière à ce que la première fois qu'on parle d'un thème, vous avez déjà pratiquement toutes les grandes lignes de votre étude. Vous savez la première fois où on parle d'adoration dans la Bible? La toute première fois. Allez, question pour un champion, tous à vos champignons. Dans Genèse, ouais. Plus exactement, dans quel contexte? Non. Il est parlé de sacrifice, mais il n'y a pas le mot adoré. Un autre qui appuie sur le champignon? Abraham, dans quelles circonstances? Cent points pour le monsieur, là. Pip. C'est exactement ça. La première fois qu'il est parlé d'adoration dans la Bible, c'est quand Abraham, il part aller sacrifier son fils. Il dit, nous allons sur la montagne pour adorer. Puis je veux juste vous dire, il n'avait pas amené sa petite équipe de louanges, il n'y avait pas de petite musique derrière. Est-ce que vous me suivez? Donc, je ne dis pas, l'adoration est aussi, peut être aussi chantée, c'est une expression. Mais fondamentalement, l'adoration, c'est obéir à Dieu. C'est le faire passer en premier. Amen. Et le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ça veut dire simplement des adorateurs spirituels et pour de vrai. Pas juste du virtuel, mais pour de vrai. Alors je répète ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est pour moi, si on veut marquer l'histoire, il faut qu'on soit marqué par Dieu. Si on veut marquer l'endroit où on habite, si on veut marquer les gens qui vivent avec nous, on a besoin d'être marqué par Dieu. Sinon, on sera juste des religieux de plus. On sera juste des échos. Mais en aucun cas, on sera une voix. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc vous avez commencé à comprendre de quoi je vais parler cet après-midi. Je veux parler d'une mentalité qui fait qu'on va rencontrer Dieu. Il y a un texte dans Matthieu, Jésus dit, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Amen. Moi, ce verset-là, je l'aime beaucoup. C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Moi, une fois, on m'a dit, ouais, mais c'est facile pour toi d'être violent ou d'aimer ce verset-là. T'es né dans une famille violente, t'as toujours été violent, t'as fait des sports violents, c'est facile pour toi. Une fois, il y a un gars, il me dit, c'est facile pour toi, t'as toujours été violent. Moi, je suis un baba cool. C'est plus dur pour moi d'être violent. J'ai juste une bonne nouvelle pour les baba cool. Les baba cool sont censés être morts en Christ. Amen. Que tu sois baba cool, que tu sois skinhead, ou que tu sois tolard, ou que tu sois philosophe, c'est ton passé, quelque part, on n'en a rien à faire, quoi. C'est ce que tu étais jusqu'à le rencontrer, c'est censé être derrière, c'est censé être mort. Et puis j'ai une bonne nouvelle, c'est que Christ en toi, c'est pas un mou. Amen. Christ en toi est violent. Alors quand je parle de violence, je parle pas des hooligans. Je suis pas en train de parler d'une violence gratuite, mais je parle d'une violence mentale, d'une violence qui montre qu'on est déterminé et qu'on est prêt à tout pour atteindre le but. Ça, c'est une certaine forme de violence. Vous êtes d'accord? Et puis en même temps, il y a une radicalité dans la violence. Demandez aux démons si Jésus n'était pas violent. Demandez à la chair même de Jésus s'il n'était pas violent. Demandez à la maladie si Jésus n'était pas violent. Puis demandez à la mort et au séjour des morts quand il était leur piquer les clés s'il n'était pas violent. Le Jésus que je connais, c'est pas un baba cool. Amen. J'ai pas dit que c'était un punk non plus. Mais le Jésus que je connais, il est déterminé pour faire la volonté de son Père. Et il se donne les moyens. Amen. Et cet après-midi, je veux parler de violence, en fait. Je veux parler d'avoir ce caractère violent qui va faire qu'on va l'avoir, notre rencontre avec Dieu. C'est, on va persévérer jusqu'à. On va persévérer. Et dans la Bible, en fait, si on lit dans les évangiles, on a, même dans l'Ancien Testament, on a plein d'exemples qui sont censés nous parler sur la violence spirituelle. Il y a plein d'exemples. Par exemple, je les prends dans le désordre. Hein. Par exemple, Bartimée. Vous avez entendu parler de lui, là, de Bartimée? Bartimée, c'était un aveugle. Et il habitait Jéricho. Et puis un jour, Jésus, c'était la dernière fois qu'il est venu à Jéricho. Il partait de Jéricho pour aller à Jérusalem et Bartimée était sur la route. Et d'un seul coup, Jésus passe avec sa parade devant lui. Lui, il est aveugle, mais il n'est pas sourd, il entend qu'il y a du monde, quoi. Alors il dit, hey, qui c'est qui passe? Et on lui dit, c'est Jésus. Et Bartimée, il est aveugle, mais il n'est pas amnésique, quoi. Il a bien entendu que Jésus avait déjà guéri des aveugles et il se dit, hey, ça peut être ma chance, quoi. Alors qu'est-ce qu'il fait, Bartimée? Eh, il est aveugle, mais il n'est pas muet. Alors du coup, il se met à crier, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et là, qu'est-ce que lui font les disciples qui sont autour de Jésus ? « Chut, tais-toi, on ne crie pas dans l'église !»« Calme, calme !» Et vous pensez que ça l'a calmé, Bartimée ? Il a crié encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et à force de crier, à force d'insister, d'un seul coup, Jésus s'arrête, il dit, « Qui c'est qui crie, là ? Si lui, là-bas, amenez-le-moi. » Et là, je suis sûr, les disciples qui ont dit, « Tais-toi, on ne crie pas dans l'église !» Là, ils ont dit, « Eh, viens, Bartimée, on t'a obtenu un rendez-vous. » Les hommes aiment bien avoir une petite gloriole, quoi. Et là, c'est marqué que Bartimée, il a laissé son manteau. Eh, le manteau, c'est tout ce qu'il avait, quoi. Il a laissé le manteau derrière et on l'amène à Jésus. Waouh ! Moi, c'est un texte qui m'étonne toujours. On amène un aveugle à Jésus. Vous imaginez la scène ? L'aveugle, il vient comme ça. Et Jésus, il dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Je dis, hey, « Hé, Jésus, c'est toi qui es aveugle ou... ?» Ça se voit qu'il est aveugle. Eh ben, tu sais ce que j'apprends au travers de ce texte ? C'est que même si tes besoins, ils sont évidents, tu as besoin de les confesser devant Dieu. Même si ça saute aux yeux, c'est le cas de le dire. Tu as besoin de les exprimer, tu as besoin de les reconnaître. Et là, Jésus dit, « Ok, crois-tu que je puisse faire ceci ?» Et Bartimée a dit oui. Il a retrouvé la vue. Ça, pour moi, c'est un exemple de violence. Il a insisté jusqu'à obtenir. Il ne s'est pas laissé arrêter par les hommes qui lui ont dit « Chut, tais-toi, reste plus calme. S'il veut le faire, il le fera. Soumets-toi à la souveraineté de Dieu. » Non, non. Il a fait irruption dans la souveraineté de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Il s'est comme imposé. On pourrait prendre plein d'autres exemples. Par exemple, la femme syrophénicienne. Vous en rappelez de celle-là ? Elle vient voir Jésus et elle dit « Maître, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Puis Jésus, ses disciples en premier disent, « C'est pas pour toi, c'est pour les brebis d'Israël. » Et elle insiste. Puis Jésus, il la regarde, il dit, « C'est pas bon pour les chiens de prendre le pain des enfants. » Je sais pas si t'imagines. Mets-toi dans les baskets de cette femme, quoi. T'as un besoin, il est pressant, tu arrives près de Jésus, et puis là, on te fait comprendre, c'est pas pour toi. Mais toi, tu as la foi, tu insistes. Et là, quand tu insistes, on te dit, c'est pas pour toi, tu fais partie de la race des chiens. Puis que c'est Jésus qui te le dirait. Et tu trouves pas que ça te met un choc quand même ? Et la femme, elle continue. Ouais, mais les chiens peuvent ramasser les miettes qui tombent de la table. Et là, la Bible dit que Jésus, il a été touché par sa foi. Et elle a obtenu. Pour moi, c'est encore un exemple de violence spirituelle. Elle a insisté malgré un non apparent de Jésus. Ça paraissait non. Et en fait, Jésus s'est laissé toucher. Et il y a des fois, tu vas prier, il te semble que les cieux restent fermés, mais pose-toi toujours cette question. Est-ce que Jésus n'attend pas une réaction de foi de ta part ? Est-ce qu'il n'est pas en train de voir si pour toi, c'est réellement un besoin ou juste un caprice ? Ring, ding, ding. C'est pas pour rien que Jésus il a dit qu'il fallait demander et de continuer de demander jusqu'à recevoir. Il fallait frapper et continuer de frapper jusqu'à ce qu'il nous soit ouvert. Est-ce que vous en rappelez de ça ? Jésus, il attend souvent des réactions de notre part. Il attend de voir une violence, une détermination parmi son peuple pour obtenir. Moi, je vous dis juste une chose. À moins d'une souveraineté de Dieu, puis... T'as rien compris au film, mais Dieu veut te toucher malgré toi. Ok, il va peut-être pouvoir faire une irruption dans ta vie sans que tu sois déterminé. Mais la plupart du temps, c'est ton cœur qui va servir de paratonnerre pour attirer sa présence et pour attirer sa puissance. Amen. Et puis, pour pouvoir avoir un cri qui va l'atteindre là-haut dans les cieux, t'as besoin d'être quelqu'un qui est complètement désespéré de toi-même. Et puis, t'as besoin de plus. C'est pas juste un caprice. C'est pas juste pour avoir une expérience charismatique de plus. Non, c'est un besoin vital. J'ai besoin de plus de Dieu. Est-ce que je parle à des assoiffés ici ? J'ai besoin de plus de Dieu. C'est pas juste un caprice. Je peux pas vivre une vie comme si je vivais quelque chose avec lui alors que c'est pas vrai. Moi, vous savez, avant d'être chrétien, j'étais pas religieux. Quelques années plus tard, j'étais pasteur et j'étais toujours pas religieux. C'est si j'avais pas pu palper, moi, les 27 dernières années, si j'avais pas pu palper quelque chose, eh ben, je veux juste vous dire, ça ferait longtemps que je l'aurais quitté, la bande à Jésus. C'est, je sais pas si vous, vous êtes comme ça. Moi, je peux pas croire des légendes. Je peux pas. Juste parce qu'on me dit qu'il existe, je peux pas dire qu'il existe. Moi, j'ai besoin qu'il se présente à moi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est, moi, je me reconnais dans Thomas, hein. Une fois, Thomas, il n'était pas à la réunion de prière. Il avait sûrement des bonnes raisons, hein, mais n'empêche que ce soir-là, il n'était pas là. Jésus arrive, il se montre ressuscité à tous les disciples. Du coup, ils vont le dire à Thomas, « Hé, Jésus, il est venu !» Et Thomas, il a dit, « Ouais, c'est bien, mais moi, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne crois pas. » Souvent, on l'appelle l'incrédule. N'empêche que ce Thomas qu'on appelle l'incrédule, il a été mort, il est mort écartelé entre quatre chevaux. Et puis à chaque pas des chevaux, on disait, est-ce que t'es prêt à renier Jésus? Puis lui disait, non, il est mon Seigneur et mon Dieu, un pas de plus. Est-ce que tu renies Jésus? Non, il est mon Seigneur et mon Dieu. Et ils l'ont écartelé. C'est une belle mort pour un incrédule quand même. Hein? Et moi, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que ce qu'il a fait tenir jusqu'au martyr, c'est justement cette expérience. Si moi, je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, eh ben, je ne crois pas. Moi, je me reconnais dans Thomas. J'ai besoin d'avoir des expériences perso. Et vous? Vous n'en avez pas besoin? Ça vous suffit que les autres vivent quelque chose? Moi, personnellement, ça ne suffit pas. J'ai besoin de palper. J'ai besoin de toucher quelque chose du ciel. J'ai besoin de le sentir vivre en moi. Amen. Vous avez le droit d'appeler ça de l'incrédulité. C'est votre droit. Mais moi, en tout cas, j'ai besoin de vivre quelque chose avec lui. Je ne veux jamais me contenter parce que ça a été prêché, j'y ajoute foi et j'y crois. Non, moi, tout ce que j'entends et qui est nouveau et que je n'ai pas expérimenté, pour moi, ça élargit le panel des expériences possibles. Et du coup, je cours après. Amen. On va donner d'autres exemples de violence dans la vie parce que, hey, il y en a plein entre nous. Hein. Les quatre amis là, qu'on emmène leur pote qui était malade. Vous vous rappelez? Sur une civière. Et ils viennent chercher leur ami, ils disent, hey, Jésus, il débarque en ville, il fait plein de guérisons, on t'emmène. Et les gars, doucement, trop tard, ils l'avaient emmené. Et là, ils arrivent, plus de place sur le parking, ils pouvaient plus rentrer dans la salle, ils essaient de passer par la fenêtre, ils peuvent plus non plus. La plupart d'entre nous, on aurait dit, ouais, si ça avait vraiment été la volonté de Dieu, Dieu nous aurait ouvert la porte, il nous aurait facilité l'affaire. Est-ce que vous comprenez ce langage? Eh bien, vous savez quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils sont montés sur le toit, ils ont fait un trou dans le toit et ils ont descendu le lascar, quoi. Et c'est marqué Jésus voyant leur foi. Attends, ils ont été déterminés. Dans la version Martin, c'est une vieille Bible en français, c'est écrit qu'ils ont cherché le moyen. Et la vraie foi, elle se donne les moyens. Elle cherche les moyens et elle se donne les moyens. La plupart d'entre nous, on en aurait conclu, ce n'était pas la volonté de Dieu, parce que si ça avait été sa volonté, il aurait ouvert les portes. Eux, porte fermée, ils défoncent le toit. Amen. Mais moi, ça me parle des exemples comme ça. Bon, ce n'est pas pour donner des idées. Hein. De toute façon, on est déjà à l'intérieur. Mais ce que je veux dire, c'est que, il y a des exemples de détermination, et on voit dans la Bible, il y a des gens qui ont obtenu parce qu'ils ont été déterminés. Pendant un bout de temps, ils n'étaient pas encouragés dans leur démarche. Ils ont dû percer quelque chose. On pourrait donner d'autres exemples. Par exemple, sur le chemin d'Emmaüs, dans l'évangile de Luc. Je ne parle pas de l'abbé Pierre, là. Hein. Mais les deux disciples, là, qui sont complètement découragés, Jésus vient de se faire crucifier, Jésus est mort. Puis là, ils sont en communion avec leurs chaussures, ils marchent, ils sont tout découragés. Et là, Jésus vient au milieu d'eux, ils n'ont pas reconnu que c'était lui. Puis Jésus leur dit, « Hey, comment ça se fait que vous êtes tristes comme ça ?» Eux disent, « Hey, ça se voit que tu n'es pas d'ici, franchement. Notre maître, il vient de mourir, et puis on est sans espoir maintenant. » Et là, c'est écrit que Jésus, il leur a expliqué à partir de l'Ancien Testament, et j'aurais voulu que ça soit enregistré, il leur a expliqué à partir des Écritures qu'il devait mourir et qu'il allait ressusciter. Et puis, ils diront plus tard, les deux disciples, là, qui sentaient leur cœur brûler. Mais ils n'avaient pas reconnu Jésus. Et d'un seul coup, vous verrez vous-même hein, dans l'évangile de Luc, c'est écrit « Et Jésus fit semblant d'aller plus loin. » Ça fait drôle. Jésus, la vérité qui fait semblant. Jésus fit semblant d'aller plus loin. Et là, c'est écrit que les disciples le pressèrent et lui dirent « Maître, demeure avec nous ». Ils ont fait une pression sur lui. Ils ont insisté « Maître, demeure avec nous ». Puis vous savez quoi ? Il est resté avec eux. Puis le soir, il s'est manifesté à eux. Ils l'ont reconnu. Eh bien, pour moi, ça m'en dit long aussi. C'est s'ils n'avaient pas insisté, je ne suis pas sûr que Jésus y serait resté. Vous comprenez ? Je ne suis pas sûr que Jésus serait resté. Et il y a des fois, Jésus fait semblant de ne pas s'arrêter avec nous. Des fois, il fait semblant d'aller plus loin. Parce qu'il attend une réaction de notre part. Demeure avec moi ! Je veux vivre quelque chose avec toi. Je ne te laisserai pas partir. Demeure avec moi. Et là, parce qu'ils ont insisté, eh ben, ils ont obtenu. Et dans la Bible, il y a plein d'exemples. Il ne faut pas penser que la bénédiction de Dieu, elle nous tombe dessus comme une crotte de mouette, quoi, par hasard. Tu es là, tu es en position charismatique de réception. Seigneur, vise, je suis là. C'est pas comme ça. Ça marche pas comme ça. La plupart du temps, il faut monter au ciel, chercher la bénédiction et la faire redescendre sur terre. Amen. Mais j'y crois pas, moi, aux réunions de prière où on se met en rond d'oignon, puis chacun dans sa position charismatique, là, puis on attend que ça nous tombe dessus. Pour moi, ça encourage une passivité. Quelque part, la Bible dit qu'on doit être violent. C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Amen. Vous voulez voir des guérisons? Vous voulez voir des malades guéris sous vos mains? Eh bien, je veux juste vous dire, si vous n'êtes pas des violents, surtout ne vous engagez pas sur ce chemin, puis arrêtez d'y rêver. Parce que même si tout ce qu'on reçoit de Dieu, on le reçoit par grâce, n'empêche que le domaine de la guérison, c'est tellement l'empire du diable. Acte 10, versets 37 et 38, en parlant de Jésus, c'est écrit « Voyez comment Dieu l'a oint, lui qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » La maladie fait partie de l'empire du diable. Puis quand tu commences à toucher son empire, l'empire contre-attaque. Amen. Aussitôt, il faut que tu t'y attendes. Tu vas rentrer dans un combat. Rien que de penser, prêcher la guérison, c'est déjà un acte d'agression dans l'empire du diable. Et si tu n'as pas une mentalité de violent, si tu vas juste comme un baba cool avec tes fleurs, tu ne vas pas y arriver. Ring-a-ding ! Tu ne vas pas tenir la pression. Par contre, si tu veux percer dans la guérison, tu vas avoir besoin de montrer que tu en veux. Ça n'empêche pas que la grâce, elle est gratuite, quoi. Mais Jésus va s'incarner dans des cœurs qui lui correspondent. Si vous voulez vivre le miraculeux, il va falloir être déterminé pour aller le chercher. Parce que la Bible dit « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche ». Littéralement, dans le grec, c'est « Repentez-vous, le royaume des cieux est à portée de main ». Il est juste là. Il est à portée de main. Et en quoi on doit se repentir ? La repentance, c'est tout un changement de mentalité, un changement de perception des choses. Ça veut dire, on va arrêter de croire que c'est juste en restant comme ça qu'on va le recevoir. Non, on va aller le chercher. On va chercher jusqu'à trouver. On va demander jusqu'à recevoir. On va frapper à la porte du ciel jusqu'à ce qu'il nous soit ouvert. Amen ! C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et c'est les mous qui s'emparent de rien du tout. Et là, je fais des vers sans en avoir l'air. Ah ouais. Hein. C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et c'est les mous qui s'emparent de rien du tout. Il y a plein d'autres endroits de violence. Par exemple, c'est le roi Joas. Un coup, Élisée, il vient le voir. Joas, il est encerclé par les armées ennemies. Et puis... Joas, il est en train de pleurer dans son coin. D'un seul coup, il voit Élisée. Il dit « Ah, voilà l'homme de Dieu ». Puis là, il commence à pleurnicher. « Oh, père d'Israël et toute sa cavalerie !» Il en passait des meilleurs. Et là, d'un seul coup, Élisée, il dit « Ouvre ta fenêtre !» Et en direction de l'ennemi, il dit « Lance une flèche !» Et là, Élisée, il dit « Flèche de salut de la part de l'Éternel. Maintenant, prends ton carquois et frappe le sol. » Et là, le roi, il y va. Vous vous rappelez de ce texte? Et là, il frappe le sol. 1, 2 et 3. Et là, la Bible dit qu'Élisée s'est mis en colère. Il a dit, t'as frappé trois fois, tu vas les vaincre trois fois. T'aurais frappé à répétition, tu aurais vaincu jusqu'à les exterminer. Encore une fois, on s'aperçoit que le spirituel va bouger au moment où on va être déterminé dans notre cœur. C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu et c'est les mous qui s'emparent de rien du tout. Vous vous rappelez, un coup, Moïse est sur la montagne. Josué est en bas. Ils se battent contre Amalek. Vous vous en rappelez de ça? Quelle position il a, Moïse, sur la montagne? Il a les bras levés. Et puis à la fin, il y a Aaron et Hur qui viennent lui soutenir les mains. Vous vous en rappelez? Tant qu'il avait les bras levés, Israël en bas gagnait. Dès qu'il a baissé les bras, Israël perdait. Là, on s'aperçoit que dans le monde spirituel, il y a une répercussion de la position qu'on prend et qu'on maintient. Ça demande une certaine violence spirituelle pour prendre position et maintenir cette position. Par exemple, quand Israël il traverse le Jourdain, les sacrificateurs ils marchent dans le fleuve s'arrête. Il sort du fleuve, le fleuve reprend son cours. Encore une fois, ça nous parle pas seulement de prendre une position, mais de maintenir la position. C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et c'est les mous qui s'emparent de rien du tout. Amen. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'exemples dans la Bible de violence spirituelle. Moi, je veux juste te poser la question. Et toi ? Choisis ton camp. Est-ce que tu veux faire partie des violents qui vont s'emparer du royaume de Dieu, qui vont s'emparer des promesses que contiennent le salut? Ou est-ce que tu vas faire partie des mous qui vont juste subir la vie? Qui vont juste prier leur Dieu pour réussir à survivre? C'est choisis ton camp. Moi, ça fait un bout de temps que je tourne. Puis il y a des églises, je reviens un an après, deux ans après, des fois cinq ans après. Et vous savez, j'ai remarqué, des fois, il y a des chrétiens, ils sont comme Jésus. Ils sont les mêmes hier, aujourd'hui, puis peut-être pour l'éternité. Il n'y a aucun progrès dans leur vie. Tu repasses 3 ans plus tard, tu fais le même appel, et ils sont même, au même endroit, ils sont levés pour le même appel. Vous en avez déjà vu des comme ça? Bon, dénoncez personne. Mais franchement, ça existe, quoi. Des gens, vous... Année après année, ils restent les mêmes. Et bien ça, en principe, c'est les mous. Parce qu'ils ne s'emparent pas des bénédictions. Ça demande une certaine violence spirituelle pour s'emparer de ce que Jésus veut nous donner. Dans la Bible, souvent, il nous est dit de recevoir par la foi. À chaque fois qu'on a la notion dans la Bible, dans le Nouveau Testament, de recevoir par la foi, le mot grec qui est traduit « recevoir » dans nos Bibles en français, c'est « lambano ». Et lambano, j'ai pas parlé de lambada là, mais la lambano, le verbe lambano, ça signifie saisir avec la main et ramener à soi. Donc, à chaque fois que la Bible nous parle de recevoir par la foi, en fait, littéralement, elle nous parle d'aller saisir par la foi. Amen. Aller saisir. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre comme exemple? Ah tiens, j'en ai un bon. À la fin de la première épître aux Corinthiens. Il y a un moment, Paul, il parle là aux Corinthiens, et puis il leur dit, soyez des hommes. Vous vous en rappelez de ça? Soyez des hommes. C'est bizarre parce que à Corinthe, il y avait et des Corinthiens et des Corinthiennes, quoi. Alors comment les Corinthiennes, elles peuvent obéir à un commandement comme ça? Soyez des hommes. Est-ce qu'il faut qu'elle se laisse pousser la moustache, se faire un gros tatouage sur le bras? Non, j'ai pas l'impression que c'est de ça qu'il parlait. Vous savez, ce que j'ai découvert, c'est que spirituellement, moi je crois qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Amen. Ça veut dire que les femmes peuvent être aussi sauvées. Non, ça, c'était une blague. Ah non, c'est vrai, hein. Mais quand il dit « soyez des hommes », vous savez, moi, ce que je crois, au fond, c'est que spirituellement, je parle au niveau de notre esprit, il y a une féminité et une virilité. Puis quand il dit « soyez des hommes », même les femmes peuvent le mettre en pratique. Parce que c'est important de retrouver une certaine virilité au niveau spirituel. Et qu'est-ce que j'appelle une virilité? Je vais commencer par vous parler de ce qu'est la féminité spirituelle. Je ne vais pas faire trop de détails, parce qu'il y en a qui sont très jeunes. Mais qu'est-ce qui caractérise la féminité? C'est le fait de s'ouvrir pour recevoir. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui caractérise la virilité? C'est la pénétration. Et qu'est-ce que j'appelle un esprit viril? C'est pas l'esprit qui, juste là, dans le moment de la prière, il s'ouvre pour recevoir, non. C'est il pénètre les cieux pour aller chercher et il ramène à soi. Amen. Et c'est pour ça que je veux juste vous dire, comme l'apôtre Paul l'a dit aux Corinthiens, soyez des hommes. Non, c'est plus le temps d'attendre que ça nous tombe dessus. Le royaume des cieux est à portée de main. Amen. Et si ça doit prendre 2 ans, ça prendra 2 ans. Et si ça doit prendre 10 ans, eh ben ça prendra 10 ans. Et puis si, moi, je me présente pas à vous comme quelqu'un qui a déjà trouvé. Hein. Il y a des choses qui me paraissaient surnaturelles il y a 20 ans. Aujourd'hui, elles font partie de mon naturel. Mais il y a des choses aujourd'hui qui me paraissent surnaturelles. Et j'espère bien que dans 20 ans, elles font partie de mon naturel. Parce qu'il y a toute une croissance qui se fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et je me présente pas à vous comme quelqu'un qui a fini sa course, quoi, qui a atteint le but. Non, pas encore. Et je continue à courir. Et puis, mon but ultime, si je le touche que quand j'aurai 70 ans, je m'en fous. Je vais continuer à courir jusqu'à. Parce qu'à l'intérieur, c'est ça que je veux. Il n'y a rien d'autre qui va me satisfaire. Mais c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et c'est les mous qui s'emparent de rien du tout. Est-ce que vous vous rappelez de cette phrase-là? C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. C'est les mous qui s'emparent de rien du tout. Je vais finir là-dessus. Il y a quelques années, j'avais vu un reportage sur les pitbulls. Ça, c'est pas une création de Dieu, hein. C'est un mélange des hommes. Mais c'est un reportage, il y a pas mal d'années. Hein. Je me rappelle, on voyait les pitbulls, ils étaient suspendus dans le vide, ils croquaient un pneu, et puis juste à la force des mâchoires, ils tenaient dans le vide. Tellement il y a une force de pression dans les mâchoires. Puis dans le reportage, ils ont dit les pitbulls sont prêts quand ils veulent manger leur mère. Je dis wow. C'était vraiment space, quoi. Mais ça m'avait marqué le coup, là, que la force dans les mâchoires, ce qu'ils attrapent, ils ne lâchent pas. Puis un coup, j'étais en train de prier. Et puis d'un seul coup, je repense à cette émission. Et puis je voyais des pitbulls. Dès que j'avais les yeux fermés, je voyais des pitbulls. Puis je disais, ah, il y a arrière de moi, Satan. Au nom de Jésus, chasse ces pensées. Et puis tu sais quoi? Chaque fois que je les chassais, j'avais l'impression que ça s'en allait. Puis bing, ça revenait. J'avais la tête, derrière mes paupières, il y avait des pitbulls de tatoués, quoi. Dès que j'avais les yeux fermés, je voyais des pitbulls. C'était. Puis après, je disais, au nom de Jésus, chasse ces pensées. Seigneur, je te demande pardon de penser à ces bêtises-là. J'essayais de me fixer sur Jésus. Et la seule chose que j'arrivais à voir, c'est des pitbulls. Et puis il y a eu un moment où. J'ai enfin compris, j'ai la tête dure, il m'a fallu un certain temps pour comprendre qu'en fait, Dieu voulait me parler. Et il voulait me parler à partir des pitbulls. Et il m'a dit, toi, sois un pitbull avec mes promesses. Et là, j'ai saisi une chose. Quand je vois une promesse dans la Bible, ben vous savez ce que je fais? Je la tiens là. Elle est dans ma bouche et je vais la confesser et je ne vais pas la lâcher jusqu'à. Amen. Mais je ne vais pas la lâcher. Je n'ai pas dit que j'allais manger ma mère. On s'arrête là, le pitbull. Mais ce que je saisis, eh ben, je ne vais pas le lâcher. Moi, cet après-midi, c'était juste ce que j'avais à vous partager. C'était, vous voulez marquer l'histoire? En premier, il faut être marqué par Dieu. Il faut faire une rencontre avec lui. Rappelez-vous Jacob. Il n'a pas été épargné. N'empêche qu'après, il a pu vivre la promesse. Eh bien, pour nous, c'est exactement la même chose. Mais si pour toi, la vie chrétienne, c'est une vie qui est sans agonie dans la présence de Dieu, si tu ne désespères pas de le rencontrer, ben, je veux juste te dire, je vais être dur dans ce que je vais dire, mais tu as encore besoin de te convertir. Parce que la première chose, quand on est de nouveau qui vient, c'est on veut le rencontrer. On aspire à une vie plus profonde. On n'est pas intéressé par une religion bien huilée. C'est même pas ce que peuvent nous dire les hommes. C'est t'intéresser par rencontrer Dieu. Amen. Et c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et c'est les mous. Exactement. Comment vous le savez ? va prier. Vous savez, un homme peut pas donner ce qu'il a pas reçu, quoi. Par contre, il peut donner ce qu'il a reçu. Amen. Si vous me demandez de prier pour que vous soyez des bons conducteurs de louanges, vous êtes trompé de bonhomme. Je suis pas bon là-dedans. J'ai rien reçu. Par contre, si je sais ce que j'ai reçu. J'ai pas reçu grand-chose, mais ce que j'ai reçu, je l'ai vraiment reçu. Puis je sais que la détermination, c'est lui qui me l'a donné. Cette détermination pour aller chercher, cette détermination pour percer, cette détermination pour pas lâcher. Et j'ai cette foi, c'est que on va prier, et puis pour ceux qui le veulent, eh ben, y a quelque chose qui va changer dans leur vie. Ils vont recevoir peut-être au début une semence de détermination. Et puis cette semence, ça va germer, puis ça va commencer à s'enraciner, ça va commencer à porter du fruit. Mais c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. On ne peut pas se permettre le luxe de ne pas être déterminé. Amen. Et on ne peut pas fuir les combats toute notre vie. Il va y avoir un moment où nos ruses, nos apparences ne serviront à rien. On aura besoin d'un face-à-face avec Dieu qui va changer comme notre nom spirituel, qui va changer notre identité, qui va changer notre façon de marcher. Mais tu as besoin de rencontrer Dieu. On prie pour ça ? Eh bien, Seigneur, à toi. Seigneur, fais ce que tu veux, avec qui tu veux, de la manière que tu veux, quand tu veux, mais fais-le. Seigneur, merci. Action de Dieu, descend. Action de Dieu, descend. Descend. Merci Jésus pour qui tu es, merci pour ce que tu fais. Action de Dieu, viens. Viens. Viens Jésus. Viens Jésus. Seigneur, on a cette foi, c'est que tu es venu, tu as donné ta vie afin que tes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Puis, Seigneur, on soupire après cette vie abondante. On soupire après cette vie, Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce.